Alors moi, je vais faire deux petits exposés qui sont de nature différente. Le premier concerne ce dont tout enseignant rêve, c'est-à-dire un engagement disciplinaire ou productif. Je vais le définir un peu plus loin. Cet extrait, ces propos de deux articles de personnes qui travaillent sur l'apprentissage, donc en Amérique du Nord, plutôt des psychologues, mais essentiellement en sciences. Donc j'ai le premier article à votre disposition si vous le souhaitez. Le deuxième n'est pas encore paru, donc je peux pas vous le... Voilà, après je reviendrai un peu pour... Mais Sylvie a parlé un peu en termes de contrat, je ne sais pas trop ce que vous savez en termes de contrat ou du milieu, si c'est des définitions qui sont acquises, donc c'est pas la peine d'en parler, vous me le direz tout à l'heure, puisque c'est des choses qui vont être abordées ensuite dans le déroulement du stage, donc j'en ai profité là pour les introduire et analyser un peu les contextes dont je vais parler en termes de contrat et de milieu. Donc si c'est des choses que vous connaissez, on zappera rapidement. Alors, je vais expliciter rapidement d'où vient ce cadre, donc explicitant des principes pour obtenir un engagement disciplinaire productif. Donc, je commencerai par définir ce que les auteurs de l'article donc considèrent comme de l'engagement disciplinaire productif et les principes qu'elles ont mis en évidence pour y conduire, puis je ferai une petite analyse didactique de la chose, comme je viens de le dire. Alors, quelle est l'origine de ces travaux? Ben, c'est un peu l'effervescence en Amérique du Nord à propos de l'enseignement scientifique à partir des années 85 et jusqu'à 2000, donc qui a vu, avec l'apparition de nouveaux cadres théoriques sur l'apprentissage, comme le socioconstructivisme, par exemple, ou la cognition distribuée ou située, encore. Et la nécessité, ça c'est quelque chose que les scientifiques ont toujours ressenti depuis quasiment le début du siècle dernier, hein, cette nécessité de motiver davantage les élèves, d'inciter davantage d'élèves à apprendre plus en profondeur les sciences. Il semble qu'il y ait quelque part là un nœud qui ait préoccupé des générations de scientifiques et donc de personnes qui se sont intéressées ensuite à l'enseignement des sciences. Et donc, au milieu de ces innovations, les collègues nord-américains ont mis en œuvre, ont inventé un certain nombre de curriculums en y associant des activités et les matériaux. C'était des ensembles extrêmement complets et donc de nombreux projets dont la littérature de recherche s'est fait régulièrement l'écho ont été mis en œuvre à partir de ces principes pour essayer de concrétiser un peu ces idées nouvelles et puis pour essayer de faire en sorte que les élèves soient motivés et puis surtout apprennent des choses de nature plus conceptuelle. Bon, certains de ces projets, puisque je le signale parce que ça a été en partie la base des principes que je vais évoquer, donc étaient organisés, travailler avec des classes organisées en communauté de recherche, c'est-à-dire avec cette idée que les membres de la communauté, donc de la classe en l'occurrence, portent la responsabilité quelque part d'émettre de nouvelles idées, de les discuter, de les débattre au sein de la communauté, de les confronter avec celles émises par d'autres communautés, par exemple, ce qui assure des niveaux de compréhension différents des sujets qui sont débattus entre les différentes personnes de la communauté de recherche, et donc qui sont devenus de fait des communautés d'apprentissage. Le problème a été à un moment, c'est que chaque programme a développé ses propres principes de conception. Et le problème avec tout ce qui est du design experiment comme ça, c'est que quand on formalise en disant voilà, moi j'ai construit mon projet comme ça, avec à partir de tel et tel principe, il y a beaucoup de choses qui restent dans l'implicite. Et donc c'est aussi ce qui empêche en partie ces programmes de se transmettre et d'être aussi efficaces quand ils sont faits par quelqu'un d'autre et non pas par le concepteur. Et donc l'idée quelque part, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais bon, sur tous ces projets qui sont tous différents, plus ou moins, est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Donc ça a été la base, hein, à un moment, devant la multiplicité de ces productions, ça a été le challenge qui a été proposé donc par les chercheurs en disant est-ce qu'on ne pourrait pas partager quelque chose de minimal? Et donc c'est cette idée-là qui a donné naissance à l'engagement disciplinaire productif et aux principes. Donc à partir, regarder un peu tous les principes spécifiques qui étaient à la base de chacun des projets pour essayer de construire quelque chose qui pouvait être commun. Donc ces éléments ont été communs, donc ont été extraits donc, de situations mettant en jeu des questions ouvertes, principalement, notamment donc issues des communautés de recherche ou d'apprentissage, et puis aussi de nombreux travaux qui avaient été faits par les chercheurs, donc à propos des conditions supportant un engagement en classe. Alors, qu'est-ce que finalement est appelé donc engagement disciplinaire productif? Bon, d'abord un engagement, je vais définir les trois mots comme ils sont entendus. Hein. Un engagement, à quoi ça se voit dans la classe? Alors je suis désolé, c'est vrai que ça serait plutôt de nombreux élèves, mais en fait ça serait aussi pour de nombreux étudiants chez nous. Je traduis student par étudiant, hein, un peu peut-être légèrement. Donc de nombreux élèves participent de manière significative aux échanges qui ont lieu dans la classe, ce qui sous-entend bien sûr que peu d'élèves sont hors tâche. Ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est que les contributions sont faites quand il y a un engagement donc défini selon les critères de Engel et de Conant, en coordination, c'est-à-dire que les réponses se font en lien avec ce qui vient d'être dit avant, en opposition ou en continuité, mais pas de manière indépendante, c'est-à-dire en gros les élèves s'écoutent, ils se parlent, ils se comprennent et ils interagissent avec ce qui est dit préalablement dans la classe. Ensuite, il y a des choses qui relèvent de la proxémique de la manifestation gestuelle et de la motivation et des émotions quelque part. Hein, c'est-à-dire qu'on voit des élèves qui, quand ils tiennent des propos, cherchent autour d'eux un acquiescement, soit par le regard, soit par la position du corps. C'est-à-dire que ça veut dire quelque part que les propos qu'ils ont de l'importance pour eux et qu'ils aimeraient trouver des appuis pour les soutenir. Les élèves expriment donc un engagement fort par des manifestations émotionnelles. C'est donc des choses qu'on ne prend pas forcément très en compte dans les études didactiques. Et puis, quelque chose qui est lié un peu au contexte de travail aussi, c'est que ce sont des activités ouvertes donc qui durent un certain temps. Hein, ça peut durer facilement 7, 8, 10 semaines. Et donc, alors bien sûr, ils font pas que ça pendant 10 semaines. Donc, chaque fois qu'ils reviennent dans l'activité, on voit qu'il y a un engagement parce que ils sont spontanément réengagés dans l'activité. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils prennent leur activité, ils se remettent dedans directement sans que ça leur coûte beaucoup. Donc voilà comment les auteurs qualifient l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire des élèves qui sont engagés? Alors sur le plan disciplinaire, la première définition qui était proposée était un peu vague. L'engagement est disciplinaire quand les activités qu'ont les élèves, donc ou dans lesquelles les élèves sont engagés, ont à voir avec les pratiques relatives à la discipline. Donc cette définition qui est assez générique, qui peut s'appliquer à plusieurs disciplines, il reste quand même donc à qualifier ce que sont que des pratiques relatives à la discipline, et en particulier en sciences. Donc là, j'emprunte ces choses-là à un article que je trouve très bon aussi de Michael Ford et Alice Forman, que je tiens à votre disposition si vous le voulez, dans lequel ils ont analysé ce que c'était que des pratiques scientifiques et des pratiques d'enseignement avec une perspective socio-constructiviste. Et donc, pour ces auteurs-là, on caractérise des pratiques ont un caractère scientifique quand elles ont les trois, elles correspondent aux trois idées que je vais énoncer maintenant. D'abord, ce sont des pratiques qui ont un aspect social, c'est-à-dire que ces pratiques donc donnent lieu ou concernent ou mettent en œuvre, je dirais, des débats publics au sein de communautés de chercheurs pour expliquer la nature, c'est-à-dire pour expliquer l'environnement, hein, c'est-à-dire que les explications, la rationalité se trouve, se construit à partir d'un débat public entre les membres de la communauté. Alors bien sûr, hein, ils utilisent des normes pour ça, c'est pas le café du commerce, et aussi des significations qui sont largement stabilisées dans la communauté, mais qui sont toutes socialement négociables. C'est-à-dire que le sens des concepts se construit à partir de négociations sociales en se basant sur des normes et des modalités de fonctionnement qui sont stabilisées, puisqu'il y a eu des chercheurs avant nous qui ont stabilisé les choses. Donc finalement, on aboutit à cette idée qu'il y a une production sociale de rationalité et aussi intersubjective, donc, puisqu'elle est sociale, associé donc à des formes rhétoriques particulières, bien sûr, liées à l'argumentation et à la preuve. Donc ça, c'est le premier aspect qui caractérise une pratique scientifique pour fort des formats. Le deuxième aspect, celui-là vous surprendra pas, c'est le fait que on débat, oui, mais que l'arbitre du débat, finalement, c'est le réel, c'est-à-dire c'est la nature, le comportement de la nature qui est l'arbitre des débats au sein de la communauté, et c'est là que se fonde l'autorité pour dire le savoir. Finalement, au-delà de des débats, quelque part, il y a un arbitre, c'est les aspects matériels. Donc. Et puis, quelque chose d'assez particulier, dans ces débats, dans cet aspect social, il y a deux rôles, en fait, que tiennent les chercheurs. Ça, c'est une schématisation, je dirais, mais elle est assez productive. Hein. C'est peut-être pas une caricature, mais on pourrait dire une schématisation. Le chercheur a deux rôles qui sont, qu'on peut distinguer quand on les analyse, mais qui sont, disent les auteurs, psychologiquement indissociables. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de constructeur, donc c'est la traduction américaine française de constructeur, un proposeur, hein, force de proposition. Donc chacun propose des choses, propose des assertions à propos de faits, à propos de méthodes, à propos de valeurs aussi. Et chacun est à un autre moment critique de ces choses-là. Hein, c'est-à-dire que moi, dans une communauté de chercheurs, par exemple, je peux proposer des choses. À côté de ça, il y aura un autre chercheur qui va regarder ce que j'ai fait, qui va critiquer ce que j'ai fait, mais en critiquant ce que j'ai fait, il va s'approprier des choses qui vont lui servir à leur tour, quand lui va être à nouveau force de proposition. Et donc, quelque part, il y a une interaction entre ces deux rôles de proposeur et de critique, de faits, de valeurs et de méthodes. Donc, pour Ford et Forman, voilà donc les trois aspects. S'il y a des pratiques qu'on peut qualifier de scientifiques dans la classe, elle devrait avoir ces trois aspects dans la classe pratiqués, donc au moment où on fait des sciences. Voilà, puis productif, donc là c'est plus simple à définir, encore qu'il resterait à voir les modalités d'évaluation, mais les élèves, ça veut dire que les élèves apprennent quelque chose, font des progrès dans la maîtrise de la discipline. Donc voilà un peu le panorama de ce que les auteurs appellent un engagement disciplinaire productif. Alors, quels sont les principes à respecter pour faire un projet d'enseignement qui assure un enseignement disciplinaire productif? Donc ils sont au nombre de quatre, ils sont très généraux, vous le verrez. Alors le premier, c'est quelque chose qui est lié au problème et à la problématisation. C'est-à-dire que la première idée pour avoir des élèves qui s'engagent, c'est d'encourager les élèves à prendre en charge des problèmes qui ont un certain nombre de caractéristiques. Alors, bon, ça c'est un diagramme que j'ai traduit, c'est une proposition donc de Randy Engel que j'ai traduit en français. Hein. Donc, la première caractéristique, ce sont des problèmes qui engendrent une incertitude, mais authentique pour eux, c'est-à-dire ce sont des problèmes où les démarches, les résultats, les raisonnements ne sont pas du tout évidents pour les élèves. On en a eu un exemple hier avec la sphère et le cylindre, hein, où le résultat, la démarche était peut-être un peu plus évidente pour nous, mais le résultat, on a bien vu que ça n'avait rien d'évident. Bon, le raisonnement était peut-être plus facile aussi pour nous, mais si on considère cette situation-là, au niveau du collège, par exemple, quand les formules avec les volumes, enfin tout ça, c'est pas les masses volumiques, tout ça, c'est pas construit. Il y a des enjeux qui sont quand même pas évidents du tout pour les élèves. Le deuxième élément, c'est des problèmes qui sont en résonance avec quelque chose qui engage les élèves. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel problème. Alors soit qui correspondent à leurs intérêts naturels, je dirais, soit alors qui sont une source de motivation extrinsèque. Et on était un peu dans ce cas-là hier, hein, quand on a regardé ce problème numéro 3. Hein, c'est quelque chose qui a été une source de motivation extérieure à nous, parce que bon, on peut pas dire que notre intérêt quand même porte sur le fait que la bille soit recouverte ou pas, c'est pas quelque chose qui nous motive intrinsèquement. Et le dernier élément, quand même, il faut que ces problèmes soient en relation avec des idées importantes et aussi les pratiques de la discipline. de manière à ce que quelque part quand même les élèves finissent quand même par apprendre quelque chose et soient donc amenés vers la discipline. Donc les problématisation, oui, mais quelque part des types de problèmes particuliers. Donc, oui, c'est des problèmes assez généraux, assez ouverts, plutôt motivants et plutôt en lien avec la discipline, ce qui fait que c'est pas des choses simples à construire. Le deuxième aspect, c'est faire en sorte que les élèves se sentent autorisés à dire le savoir. Alors, avec différents niveaux d'autorité. Premier niveau, c'est l'élève qui se sent autorisé dans la classe à dire le savoir, même s'il comprend bien que c'est pas le savoir qu'attend l'enseignant. Hein, quand, vu la question qu'il pose et la manière dont il la pose, les élèves décodent très vite les réponses qui sont attendues. Donc, on dit que l'élève, enfin, en tout cas dans l'article, hein, la proposition qui est faite, c'est que premier niveau d'autorité, c'est de dire, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'attend l'enseignant. Je dis moi ce que je pense ou ce qui m'inquiète. Ouais. Le deuxième niveau, c'est de reconnaître l'élève comme auteur de ses idées. C'est-à-dire, tiens, un tel a dit ça tout à l'heure, hein, donc d'attribuer un authorship, c'est dans l'article, donc d'attribuer à quelqu'un des idées. Le troisième niveau, c'est de reconnaître à l'auteur le fait que ses idées participent à la construction d'autres idées au sein de la classe et que des élèves lui empruntent ses propos. C'est-à-dire qu'en fait, que ce qu'il a dit sert quelque part, peut servir, en tout cas est utile à d'autres pour s'appuyer dessus, quitte à le contredire, je dirais peu importe, hein, mais pour construire des propos dessus. Et puis le dernier élément, donc c'est aussi à reconsidérer dans l'idée de communauté d'apprentissage, hein, où l'élève est positionné comme la personne ressource sur un domaine particulier. C'est-à-dire, si la question, ça, il faut le comprendre, parce que ça nous paraît peut-être un peu étonnant pour nous, mais il faut le comprendre comme il y a des questions, ça, je sais pas, je pourrais donner un exemple du type travailler sur la classification, par exemple, il y en a qui travaillent là-dessus, qui se partagent le travail, qui travaillent sur la classification de, je sais pas moi, des poissons, par exemple, et donc, au bout d'un moment, au bout de 7 ou 8 semaines de travail sur ce secteur-là, et ils finissent par acquérir une certaine expertise, quoi, au sein de la communauté. Donc, voilà, c'est le dernier niveau, en tout cas, qui est proposé par les auteurs comme position par rapport à l'autorité vis-à-vis du savoir. Alors, l'autorité à dire du savoir, ça va pas sans une responsabilité à dire le savoir, sinon on a n'importe quoi, bien sûr. Donc l'idée, c'est de demander en permanence aux élèves d'expliquer comment leurs propositions font sens vis-à-vis des propositions qu'on a déjà reconnues comme pertinentes de leurs camarades, et aussi éventuellement, parce que vous verrez que dans les ressources, il y a des bouquins et donc des idées qui sont exprimées en dehors de la classe, bien sûr, et donc font sens aussi vis-à-vis des idées qui sont communément acceptées par la communauté scientifique, la discipline, les normes, notamment au niveau du raisonnement. Et donc finalement, il y a plusieurs formes de responsabilité. La première, c'est une responsabilité par rapport à soi, hein, c'est-à-dire, moi je dois être capable, j'avance des idées, je dois être capable de les justifier pour moi déjà, c'est-à-dire il faut que ça soit cohérent par rapport à moi, hein, d'où les questions de formalisation qu'on n'a pas débattues hier, hein, mais si vous voulez pouvoir exprimer quelque chose, alors peut-être qu'en l'exprimant vous le formalisez aussi, mais quelque part, la responsabilité par rapport à soi implique une certaine formalisation de ces idées. Responsabilité par rapport aux autres, donc par rapport aux autres, si on revient aux communautés d'apprentissage, de sa petite communauté à soi, bien sûr, on peut pas raconter n'importe quoi aux autres, puisqu'ils vont nous questionner, par rapport aux communautés d'à côté aussi, donc les autres, c'est double, et aussi par rapport aux experts qui sont extérieurs, et donc qui sont les représentants de la discipline et des normes. Et le dernier élément, donc, ce sont les ressources. Le quatrième principe, c'est de proposer des ressources pertinentes. Parmi les ressources, vous notez bien qu'il y a le temps suffisant, des problèmes qui sont bien conçus, ça j'ai évoqué ça tout à l'heure. Alors, dans l'article, il est fait allusion, dont les élèves ont de nombreux documents à leur disposition, souvent des documents qui sont de nature contradictoire, enfin, ou en tout cas qui comportent des informations contradictoires et qui les incitent à aller rechercher d'autres sources d'informations, à les discuter, à évaluer les arguments qui sont proposés. Donc des documents qui sont disponibles en permanence. Documents, enfin, par documents, on peut entendre aussi des ressources humaines extérieures. Hein. Parmi les ressources, il y a aussi l'enseignant qui intervient essentiellement sur quelques points donc que j'ai pointés là, qui sont dans la résolution, le respect des choses apprises, notamment des modèles qui ont été stabilisés au cours du travail ou au cours de travaux précédents. Le développement de discussions raisonnées, c'est-à-dire en fait avoir une cohérence dans les arguments qui sont utilisés. L'enseignant sert aussi de ressource quand il y a quelques habiletés spécifiques qui sont en jeu et qui sont à construire, mais l'enseignant intervient peu ou pas sur le contenu qui est en jeu et qui est en train d'être construit par les élèves. Et par contre, il a bien sûr un rôle important sur les relances vis-à-vis de la problématisation, puisque l'objectif c'est de faire approfondir, donc il ne faut pas s'arrêter à la première étape, à la première réponse fournie, et donc il faut poursuivre le travail de recherche et de mise en débat, et donc il a un rôle important par rapport à la problématisation. Alors bien sûr, bon, ça c'est quelque chose qui renvoie à l'idée de contrat. Il faut aussi, mais ça se construit peu à peu, l'expérience de ces modalités de fonctionnement, c'est-à-dire que les élèves qui sont là ont déjà construit, enfin savent à peu près ce qu'attend, quels sont les enjeux de l'activité, ce qu'attend l'enseignant d'eux et ce qu'ils ont à faire comme activité. On mettrait nos élèves directement de but en blanc dans ce type d'activité, ça poserait un certain nombre de questions. Alors, on a regardé, c'est des travaux de recherche en cours, j'avance d'une diapositive. Alors finalement, comment on peut schématiser ça? Alors voilà le schéma que j'avais proposé quand on avait débattu de ces choses-là. En fait, l'engagement disciplinaire productif résulte d'un équilibre qui n'est pas simple à trouver, parce que bon, quand c'est écrit comme ça, ça a l'air simple, hein, mais quand c'est à construire dans une classe, c'est nettement plus compliqué. Et là, je rejoins l'analyse qu'a faite Sylvie tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans une classe, l'enseignant, il a un certain nombre de contraintes et non négligeables, et il a optimisé tout ça. Donc ça, c'est un principe sur le papier. Après, ben, il faut gérer l'envie des élèves plus ou moins grande, le climat et les contraintes climatologiques de temps en temps, si vous êtes en train de travailler sur des choses, sur la lumière par exemple, et que vous avez des rideaux comme ceci par exemple, ou alors c'est pas le climat, mais si vous avez un superbe soleil, ben, les contraintes de travail, ben, il faut faire avec, bref. Donc un équilibre sur deux axes, hein, entre problématisation et ressources. Donc bien sûr, plus la problématisation est importante, plus il faut que les ressources correspondent à la problématisation donnée et soient importantes, hein, petit problème, peut-être des ressources réduites, à grand problème, des ressources pertinentes et pertinentes. Et de l'autre côté, finalement, un autre axe, hein, où l'autorité qui est donnée aux élèves à dire des choses est contrebalancée par la responsabilité qu'ils ont assumée sur les propos qu'ils tiennent, quoi. Hein. Voilà donc une manière de représenter le difficile équilibre entre ces quatre principes. Donc bon, il y a un certain nombre de travaux qui ont lieu donc sur ces choses-là. Donc nous, on a réalisé sur ces principes-là à propos de la démarche d'investigation. Qu'est-ce que ça devient, ce truc-là? Alors on a pris quelque chose qui, bon, bien sûr, donc on est dans un cadre qui est cette fois-ci beaucoup plus contraint que les situations ouvertes sur lesquelles sont construits ces principes-là, contraint par les contenus à enseigner et puis aussi par le temps pour le faire, hein, puisque en gros, on pourrait caricaturer en disant qu'il y avait des programmes au collège, par exemple, avant la démarche d'investigation, et qu'ils y sont toujours à peu près, même s'il y a eu quelques glissements récents, et que ce qu'on a changé, c'est la manière de les enseigner. Enfin, en tout cas, ce qu'on voudrait changer. Voilà, donc on a regardé un certain nombre de choses, un certain nombre de classes, et à un moment, on s'est trouvé dans une classe où on a pensé qu'il y avait un engagement disciplinaire productif. Alors j'ai mis des petits D, des petits E, parce que c'est pas tout à fait les mêmes critères que ceux que j'ai évoqués. Productif, oui, parce que les élèves ont appris des choses. Disciplinaire, ben, un peu moins que les trois critères qu'on a vus, notamment l'interrelation entre les rôles de critique et de proposeur ou de propos de constructeurs d'idées. Donc c'est souvent, on a vu plutôt des élèves qui proposaient, la critique était quelque chose de moins construit aussi, parce que c'est dans un délai, les thèmes s'enchaînent quand on enseigne en démarche d'investigation, hein, c'est à peu près 1h30 par contenu de savoir quand on en fait, donc c'est difficile d'avoir là-dedans des rôles de proposeurs d'idées et de critiques d'idées. Voilà. Et engagement, engagement, au moins pour les trois premières choses qu'on vous a proposées. Ce qu'on n'a pas vu, bien sûr, c'est le réengagement dans la durée, puisque les thèmes changent régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit engagement. Et les facteurs émotionnels aussi sont pas toujours évidents à percevoir dans des activités liées au quotidien. Donc, moyennant cette réduction de l'engagement disciplinaire productif, on retrouve quand même une certaine, enfin, je veux dire que les principes ont une certaine pertinence dans les activités qu'on a vues, donc, et qui, enfin, qu'on a analysé, qui a mené à un engagement disciplinaire productif. Il y avait, dans ce qu'on a observé, une problématisation. Alors, elle n'a pas toutes les caractéristiques du problème que j'ai dessiné tout à l'heure. Il y a une problématisation réduite. Et donc, il y a des ressources, mais elles sont pas de même nature, les ressources. C'est-à-dire que, les ressources, sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles sont liées en gros à la situation proposée et à la séance. Elles n'ont pas une durée dans le temps très très importante. Elles sont surtout valides au niveau micro, c'est-à-dire en fait ce qui sert de ressource à l'élève pour avancer, c'est les petites régulations que fait l'enseignant tout au long, hein, entre le chemin qui conduit de la situation de départ le chemin qui conduit à l'institutionnalisation finale du savoir, mais l'enseignant intervient régulièrement, il montre des choses, il en oublie d'autres, il pointe des trucs, il signale des choses, donc il y a toute une activité de régulation, mais qui porte sur les contenus, destinée un peu à baliser le chemin, qui va, donc de la situation jusqu'à l'institutionnalisation. Alors on comprend pourquoi, hein, compte tenu du temps dont il dispose, s'il veut arriver au bout, forcément, il faut qu'il joue le rôle un peu de ressources. Les ressources sont totalement de nature différente. Et de la même manière, sur l'axe autorité-responsabilité, ce qu'on a vu, c'est les deux premiers niveaux de l'autorité, hein, c'est-à-dire instituer l'idée que l'élève peut dire des choses dans la classe, même s'il n'est pas d'accord, et surtout s'il n'est pas d'accord, et l'idée qu'on attribue à l'élève la paternité de ses idées. Il y a ces deux niveaux-là qu'on a observés, et la responsabilité, c'est un peu pareil, quoi. S'il est responsable de ce qu'il dit par rapport à lui, et par rapport aux gens qui vont l'écouter, mais pas par rapport, bien sûr, à l'extérieur, et pas par rapport, en tout cas pas immédiatement par rapport aux normes. Donc voilà un peu l'idée, un peu que c'est principes-là, quand même, quelque part, peuvent servir au moins à analyser et peut-être un tout petit peu à penser la réalisation d'activités qui ne sont pas dans les mêmes activités que celles qui ont donné naissance. Alors, je voulais regarder ces choses-là. Alors, par rapport à ça, je sais pas, est-ce que je dois rappeler ce que on peut définir comme milieu et comme contrat ou pas ? Est-ce que c'est la peine ou est-ce que c'est pas la peine ? Milieu, il y a eu de très nombreuses définitions. Pour ceux qui voudraient en retrouver certaines, je vous renvoie à un article d'éducation et didactique du début de l'année, dans lequel on a écrit avec une de mes collègues, Chantal Amadesco, un article donc sur le milieu, notamment où on fait un peu le point sur ces choses-là. Alors disons, hein, simplement, parce qu'on peut, l'idée c'est de s'entendre un peu et donner un sens commun aux choses, hein, qualifions de milieu, donc par rapport à ce que je vais dire et peut-être par rapport à la suite, l'ensemble des éléments conceptuels et matériels à disposition dans la classe pour enseigner et aussi à disposition dans la classe pour apprendre, hein. C'est-à-dire en fait tout ce qui agit sur l'élève et tout ce sur quoi l'élève agit, hein. Ça donne un espace donc à la fois conceptuel et matériel. Donc ça détermine d'une part un contexte cognitif dans lequel va avoir lieu l'action. Bon, bien sûr, ce contexte cognitif est insuffisant, sinon ça veut dire qu'il n'y a rien à apprendre, hein. Donc le contexte cognitif qui est commun première, je le mettrai en bémol tout de suite après, mais va permettre donc de rentrer dans l'activité, mais il est insuffisant pour l'amener à bout, hein, ce qui veut dire qu'il faut quelque part, là c'est un problème de dévolution, que l'élève accepte de s'engager dans quelque chose dont il sait pertinemment qu'il n'a pas encore la solution. Hein. Et puis donc milieu aussi autant que possible antagoniste, parce que quelque part il faut aussi par rapport à des idées que pourrait avoir l'élève sur la situation sur laquelle il travaille, aboutir à un certain nombre d'adaptations de ce système cognitif, d'évolution de ce système cognitif. Donc quelque part il faut quelques résistances, hein, sur l'espace où il travaille pour qu'il puisse confronter les choses qu'il sait déjà par exemple et éprouver leur validité et éventuellement les faire un peu bouger, quoi. Voilà, alors bien sûr, le milieu, avec cette définition-là, est évolutif dans le temps, c'est-à-dire dès que quelqu'un apporte quelque chose, une précision complémentaire, là, que ce soit l'enseignant ou l'élève, bien sûr, le milieu évolue au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on parle du milieu parce que c'est déjà compliqué à modéliser ce milieu, mais comme ce sont des éléments conceptuels, vous imaginez bien que on pourrait dire à la limite que chacun a les siens, que la manière de concevoir quelque chose n'est pas la même selon les élèves et même selon l'enseignant, et que donc finalement on aboutit, et c'est bien ce qui est compliqué dans la classe, à un ensemble de milieux différentiels, hein, et que quelque part le rôle du maître c'est d'arriver à constituer une référence commune à partir de cet ensemble assez différent. Alors concernant le contrat, contrat didactique, dont je reprends les définitions de Rousseau, hein, c'est l'ensemble des comportements du maître qui sont attendus de l'élève, et vice versa, l'ensemble des comportements de l'élève qui sont attendus du maître. Hein. Donc le contrat, c'est ce qui donne la signification de ce qui se passe, c'est ce qui permet à l'élève d'interpréter les situations, les questions qu'on lui propose, hein, qui sont donc proposées à un moment donné. Donc bien sûr, plus spécifiquement en lien avec le savoir en fonction de ce qui a été déjà produit dans les situations d'enseignement préalables. Donc il y a dans le contrat à la fois des éléments donc auxquels Sylvie faisait allusion tout à l'heure, hein, qui sont liés au savoir lui-même, hein, c'est-à-dire que si à un moment donné on travaille sur de l'addition, eh ben, il y a des choses que l'élève a décodé à propos de ce savoir-là qui fait fonctionner, qui met en œuvre, ben jusqu'au moment où on lui demande autre chose, parce qu'on ne va pas lui demander en permanence de travailler sur l'addition. Donc en fait, le contrat, il est régulièrement rompu. Hein. Puisque le savoir avance et que le contrat est lié au savoir en jeu, ce sont les contrats sont au fur et à mesure renégocier au fur et à mesure que le temps passe. Et dans ces contrats aussi, il y a des éléments qui sont davantage pérennes, hein, et qui sont liés notamment à l'institution. Par exemple, en physique, dans les éléments pérennes, on pourrait dire, alors lié à une institution à un niveau assez élevé, hein, généralement, d'une expérience, on attend une conclusion. Donc l'élève sait que s'il fait une expérience, il aura quelque part, ça fait partie du contrat, un résultat à produire à la fin de l'expérience. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour jouer avec. Quoi. De la même manière, après, on peut avoir des éléments du contrat qui sont liés à des établissements particuliers. Hein, les contrats qui sont en cours dans une salle de classe, dans un lycée de centre-ville, dans un lycée de banlieue, ne sont pas du tout de même nature. Hein. Voilà, donc cette idée de contrat, en fait, c'est assez simple à comprendre. Hein. Vous arrivez ici, par exemple, ben, vous regardez un peu comment on fonctionne. Là, depuis un jour ou deux, vous avez compris qu'il y avait quelques exposés, quelques modalités où vous pouviez poser vos questions. Donc du coup, ben, vous m'interrompez plus quand je parle, vous savez que vous parlerez après. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se construisent. Vous décodez au fur et à mesure, hein, les situations dans lesquelles vous êtes. Et donc, il y en a qui sont liés au propos, au savoir lui-même, et puis d'autres qui sont liés à l'institution, ou en tout cas qui ont une plus grande pérennité. Voilà, et c'est des choses qui sont importantes pour décoder les activités, qui aident autant les élèves que les enseignants. Alors là aussi, bien sûr, il y a souvent la mise en œuvre, à partir du moment où on fait de la différenciation, et de manière implicite ou explicite. Hein. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure à propos de l'article de Bonnery est un exemple. Il y a des contrats différentiels. Hein. Dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, l'élève de milieu favorisé, il sait bien à quel moment il doit intervenir et à propos de quoi il doit intervenir. Hein. Et c'est des choses qui sont implicites. Elles ne sont jamais écrites, hein, bien sûr. Voilà, donc quand on regarde les deux types de situations qu'on vient de définir, on se rend bien compte que les milieux didactiques sont extrêmement différents. Hein. De par les situations dans lesquelles les élèves sont mis, c'est-à-dire la nature des questions posées qui sont ouvertes dans le premier cas, où souvent les savoirs sont totalement à construire, et puis des questions qui sont beaucoup plus circonscrites, dans lesquelles la mémoire didactique a souvent un rôle important, hein, dans le deuxième cas de la démarche d'investigation. Et aussi, les ressources, hein, qui sont différentes à disposition. Donc, tant dans les éléments, au niveau des éléments conceptuels que des éléments matériels du milieu, dans le cas des situations très ouvertes là, qui ont donné lieu à l'élaboration des quatre principes, ou dans le cas de la démarche d'investigation que j'ai traité sommairement tout à l'heure, les milieux qui sont proposés aux élèves sont de nature différente. On peut dire aussi que l'évolution du milieu, elle se fait pas de la même manière du tout. Hein, c'est-à-dire dans les communautés d'apprentissage, ou en tout cas dans un endroit, si on appelle pas ça des communautés d'apprentissage, où on traite des questions très ouvertes, hein, on pourrait avoir les TPE pourraient ressembler à ça, par exemple, éventuellement. Hein, on a une évolution du milieu qui est beaucoup plus lente, hein, et qui est... pas exclusivement, mais elle est fortement sous la responsabilité des élèves. C'est-à-dire que c'est les élèves, par leurs apports, qui font évoluer le milieu. Alors bien sûr, d'où l'importance des ressources extérieures à la classe, parce qu'ils ne tirent pas ça d'eux-mêmes, forcément, bien sûr. Et ce qui explique aussi que les régulations portent beaucoup sur les raisonnements, éventuellement sur les habiletés, mais elles ne portent pas forcément sur les savoirs eux-mêmes. Alors que dans les séances de démarche d'investigation, on a une évolution rapide du milieu, contrainte par le temps. Hein. La responsabilité est souvent au plus partagée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des interactions prof-élève et où les deux partagent la responsabilité de faire avancer le savoir, mais souvent, au bout d'un moment, mais le prof reprend le dessus et fait avancer le savoir tout seul. Contraint par le temps, hein, souvent, surtout quand à propos des situations qu'il propose, il n'arrive pas à tirer le bon questionnement ou la bonne hypothèse ou des choses comme ça qui lui va pour avancer son affaire. Hein. Donc là, pour le coup, il y a une importance des ressources internes à la classe, hein, qu'elles soient conceptuelles ou matérielles, hein, forcément. Et les régulations portent beaucoup sur les contenus parce que il faut que l'affaire avance dans un temps extrêmement délimité. Quoi. Voilà. Et bien sûr, les contrats didactiques sont aussi de nature très 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 différente. Hein. Dans les deux cas, les contrats sont un appui important pour l'enseignant, hein, puisque l'élève s'engage plus facilement dans l'activité quand il a les tenants et les aboutissants du contrat, même s'ils sont implicites. Il y a des enjeux de dévolution et de problématisation qui sont forts, surtout dans le premier cas, mais aussi dans le second, hein, si on veut pas avoir une activité d'investigation qui déroule les sept étapes là de manière extrêmement formelle, si on veut que les élèves s'engagent un peu, il y a aussi des enjeux de dévolution hein, qui sont importants. Voilà ce premier exposé. Voilà, donc finalement quatre principes: contrat, rupture, milieu, évolution. Donc je dis c'est des outils pour analyser des situations d'enseignement, mais aussi un peu pour les penser, en mettant les bémols, c'est-à-dire que c'est des choses, les principes hein, qui sont établis dans des conditions particulières, et maintenant il faut les mettre donc avec le modulo les contraintes d'enseignement que vous connaissez autant sinon mieux que moi. Quoi. Mais ça aide à penser, ça aide à réfléchir. Voilà, le deuxième exposé de nature différente. Là, je vais faire état des choses qui sont plus centrées sur les interactions. Donc là, la partie plus romain théorique va être plus courte, même l'exposé sera plus court de toute manière. Donc deux références qui sont au tableau. J'ai le deuxième article et j'ai des photocopies, je pense, du premier, si vous voulez avoir des choses à ce propos-là. Donc, caractéristiques des interactions et construction du sens. C'est-à-dire quel type d'interaction et de lien entre les types d'interactions permet de construire ou non du sens. Donc, c'est des travaux qui ont été menés donc dans l'enseignement de la physique et de la chimie, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est extensible aux mathématiques ou pas. Le reste a été mis en évidence en sciences, donc c'était extensible à mathématiques. Donc là aussi, une origine très brève hein, du cadre présenté. Quelques descripteurs liés aux interactions, et puis après, on va regarder quelques interactions et voir comment, d'après les auteurs, on peut construire du sens. Alors, l'origine, c'est une série de travaux très importantes, enfin un nombre, sur les analyses discursives, donc liées aux situations d'enseignement, pour essayer de comprendre comment le sens peut se construire ou non chez les élèves. Alors, il y a de tas de travaux, notamment, enfin il y en a en France aussi d'ailleurs, mais notamment nord-américains, sur ces choses-là. Et donc il y a un cadre de lecture de ces situations qui a été développé donc par Mortimer et Scott. Pour ce faire, ils ont travaillé, donc je dis sommairement, ils ont divisé les séances en plusieurs phases, par rapport à la définition qu'on a donnée hier, une phase, une activité, quoi, quelque part, hein. Donc, liée, chaque phase est liée à la transmission d'un savoir scientifique, et chaque phase est caractérisée par un ensemble de 5 descripteurs, et je vais simplement donner ceux qui ont très hautes interactions. Alors, il y en a 3 sur les 5. Ils caractérisent chaque phase par le contenu, la nature de ce qui est discuté. Donc, est-ce que cette phase, c'est un point de vue du quotidien ou un point de vue scientifique qui est débattu? Donc là, vous voyez des renvois à ce qui a été dit hier à propos des demandes, à propos des demandes et le fait qu'il y ait du quotidien et du scientifique dans les demandes. Bon, description, explication, généralisation, ça ne nous intéresse pas ici. Et puis aussi dans les aspects empiriques et théoriques, et donc l'exposé d'hier sur les demandes. Donc ça, c'est le premier descripteur. Hein, donc on peut arriver comme ça. À un moment, il y a une phase qui décrit empiriquement un phénomène avec un point de vue du quotidien, par exemple. Hein. Voilà comment on caractérise les choses. Le deuxième descripteur, c'est la nature communicationnelle des interactions. Le premier ne pose pas de problème. Communication interactive ou non interactive. Hein, donc vous avez compris que j'étais dans le non interactif. Donc voilà. Puis quelque chose qui est peut-être moins partagé, le fait qu'on puisse dans la communication débattre de deux points de vue en prenant vraiment la perspective des deux points de vue. C'est-à-dire donc c'est une communication de type dialogique par opposition à la communication de type autoritative. Il n'y a pas de traduction française directe qui est focalisée sur un point de vue. C'est-à-dire que l'idée que quand un élève exprime un point de vue, vous lui répondez avec le point de vue de la science, on est dans de l'autoritatif. On ne débat pas deux points de vue. Hein. L'idée de dialogique, c'est vraiment que deux points de vue soient pris en compte et utilisés. Donc quand on a, oui en plus, bon il y a dans le, ça je, bon vu le temps je passe, donc 4 classes donc pour décrire l'approche communicationnelle, hein, donc c'est peut être non interactif et autoritatif, non interactif et dialogique, ça peut être interactif et autoritatif et interactif et dialogique. Il y a aucun, vous allez le voir dans la suite, relation de valeur entre ces propos, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, hein, c'est pas, il faut pas du tout l'entendre comme ça. Voilà, et ensuite le dernier descripteur, ce sont les Anglais appellent des patterns, donc des schémas, des modèles d'interaction. Donc il y en a un qui est classique, qui est mis en évidence depuis 30 ou 40 ans, hein, qui est ce qui s'appelle donc l'initiation, le prof pose la question, l'élève donne la réponse, le prof donne l'évaluation. Et on passe ensuite à la séquence suivante, qui est donc classique et IRE, hein, qu'on pratique tous. Et puis donc, autre forme d'interaction, initiation, réponse, relance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation. Et là, ça conduit donc à obtenir une réponse plus élaborée. Et puis après, ces choses-là, ces bases, elles peuvent se combiner. Donc on peut avoir IR, PR, PR, etc. Bon, il y a toutes les formes de combinaison. Mais on a aussi initiation de l'étudiant, donc de l'élève. Donc avec une initiation, une réponse d'un étudiant 1, une autre initiation, une réponse de l'étudiant 2, et ainsi de suite, dans des formes plus complexes. Donc, on peut, à partir de ces 3 ou 4 outils, là, analyser des interactions et voir quand de quoi émerge le sens, en tout cas selon les recherches qui ont été produites. Alors, on va regarder comme ça 4 petits épisodes avec les interactions correspondantes. Donc, la situation, c'est la suivante. Les élèves ont plongé une main dans de l'eau froide, une autre dans l'eau chaude, et puis toutes les deux dans l'eau tiède. Et donc là, l'enseignant les invite à poursuivre leurs échanges. Donc, il ne leur dit pas sur température et chaleur, hein, donc collectivement. Alors, l'extrait, le voilà. Le prof dit, alors la température, vous êtes d'accord avec ça? Il y a eu un échange de chaleur, répond un élève. Un échange de chaleur? Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Il y avait une sorte de diffusion. La température de l'eau passe dans votre main et de votre main dans l'eau. L'une échange de la chaleur avec l'autre, madame. Je pense qu'il s'agit d'un échange de température, dit un autre étudiant. La chaleur chauffe l'eau froide jusqu'à un point auquel la température ne transférera ni chaud ni froid, dit un autre étudiant. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je veux savoir de quel s'échange. Il s'agit entre l'eau et la main. Température ou chaleur, dit le prof. Donc, compte tenu du temps, je ne vais peut-être pas vous faire réfléchir dessus, hein, quand on regarde cet épisode, on a une communication qui est interactive, hein, les élèves, le prof interviennent, elle est dialogique, chacun exprime son point de vue. Hein, alors, le type d'interaction, hein, c'est de type question, réponse, relance, hein, plusieurs reprises, le prof intervient pour réouvrir, relancer l'activité. Et ce qui est pris en compte, finalement, c'est ce que savent les élèves. Donc, en fait, quelque part, hein, c'est une exploration de connaissances du quotidien. Hein, premier épisode. Deuxième épisode, expérience. Donc, ça, c'est une première séance. Et la séance suivante, celle-ci. Expérience en binôme. On a deux choses, un mélange réfrigérant, donc qui glace avec de la glace en fusion, et un mélange réfrigérant dont la température est de moins 7 ou moins 8, hein, ou moins 10 par là. Il y en a on en a jeté des tonnes sur la neige ces jours-ci. Et puis un mélange à 0 degré, donc où on a de la glace en fusion. Hein. Et la question c'est est-ce que le froid peut être chaud quelque part, puisque quand on met un thermomètre, il indique moins 9, on le met dans la glace fondante et le thermomètre monte, ce qui est un peu paradoxal. Et donc discussion en classe entière. Donc là, c'est le prof qui prend la parole, c'est un extrait. Hein. La semaine dernière, quelques groupes avançaient l'idée de l'existence de deux sortes de chaleur. Donc, il reprend ce qui s'est passé, chaleur chaude et chaleur froide. En fait, nous considérons souvent la chaleur en fonction de notre sens du toucher. Et nous avons des sensations différentes du froid et du chaud. Et nous avons naturellement tendance à accepter l'idée qu'il y a deux choses séparées et distinctes, une chaleur chaude qui chauffe les objets et une chaleur froide qui refroidit les objets. Donc là, on est en retour sur ce qui se passe, et puis ça va glisser un peu. Hein. Là, si on analyse, bon d'abord c'est du côté, c'est pas interactif. Hein. Là, il y a du dialogique, hein. Il rappelle les deux points de vue hein, des élèves, et puis peu à peu les choses vont glisser. Mais nous devons examiner ces idées. Ainsi, il y a deux choses. La première est relative à ce que nous appelons froid ou le froid. Il n'y a rien qui soit absolument froid, n'est-ce pas? Par exemple, la glace fondante, nous pensons qu'elle est réellement froide. Mais si on la compare au mélange glace-sel, est-elle froide? Vous voyez, là, il y a un glissement vers le point de vue scientifique, là, peu à peu. Hein. Un élève, bon, qui répond, lui, il a compris le contre-droit, si le prof pose ça. Voilà. Non, elle est chaude. C'est une source de chaleur. Bon, etc. Hein, on va bien sûr étudier tous ces extraits sont tirés du deuxième article. Donc, si vous voulez les retrouver, et puis un descriptif plus grand. Donc, communication non interactive, dialogique au début, non interactive, autoritative vers la fin. Où on prend le point de vue de la science, peu à peu. Voilà. Donc, mise en perspective des idées du quotidien, deux sortes de chaleur, avec les idées scientifiques, il y a une sorte de chaleur, quelque part. Épisode 3, donc on avance, hein, le professeur demande à l'ensemble de la classe pourquoi le thermomètre donne une indication plus élevée quand on le passe d'une température, enfin d'un récipient à un autre, hein, ça se passe dans la continuité. Qu'est-ce qui fait que le thermomètre monte? Alors, l'eau ne transfère pas de chaleur, dit un élève, pas au thermomètre, le thermomètre est juste là pour mesurer la température. Donc là, il dit, ça sert juste à mesurer, pas de transfert de chaleur. Qui est d'accord avec l'élève? Qui a une explication différente? Je pense qu'il y a un transfert de chaleur, parce que quand vous mettez le thermomètre dans le mélange, il y avait une température plus basse, et quand on l'a déplacé dans le récipient avec l'eau glacée, la température est montée. Et donc, il prend de la chaleur, qui est fournie par la glace. Et d'où vient cette chaleur, demande le prof? De la glace fondante. Qu'est-ce que vous en pensez, élève 3? Il y a un échange de chaleur. Donc, comment on peut regarder ça, finalement? Mais le prof relance pourquoi. Comment on peut regarder ça? Bon, on est dans une communication autoritative, c'est le point de vue de la science là qui prévaut, et on n'est plus dans deux sortes de chaleur. Il y a une chaleur, elle se transfère ou pas. Hein. Communication, elle est interactive, les élèves interviennent et dialoguent avec le prof. On travaille sur des faits, hein, mais on travaille sur des faits en utilisant des idées scientifiques. Hein. Et bon, il n'y a pas d'évaluation apparente, mais quand il y a une relance tout le temps, mais quand on regarde la vidéo, on voit qu'à des gestes, à des mimiques, il y a quand même une évaluation dans les propos de l'enseignant. Et dernier épisode, et puis après on va mettre tout ça en perspective, qu'est-ce qu'il se passe dans le thermomètre? Donc discussion en classe entière dans la continuité. Que se passe-t-il dans le thermomètre? Y a-t-il une sorte d'échange? Je le pense, dit un élève, parce que le mercure dans le thermomètre monte et descend, se dilate ou se contracte selon la température. Il se dilate quand la température est élevée, il doit y avoir un échange de chaleur pour qu'il monte et qu'il descende. Un élève répond, je pense que le truc dans le thermomètre est fait d'une matière qui ne prend pas beaucoup de chaleur pour le faire changer. C'est une de ses propriétés. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Il est sensible à n'importe quoi que l'on mesure. Et le prof répond, un bon thermomètre ne doit pas prendre beaucoup de chaleur. Autrement, cela ferait baisser la température de l'objet que l'on mesure. Ok ? Dans le dernier épisode, hein, caractère dialogique, hein, on essaie de prendre en compte deux points de vue, mais deux manières de voir par les élèves, mais uniquement d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on fait travailler le point de vue scientifique équilibre thermique, et on essaie d'appliquer ce point de vue à une réalité et avec des explications qui peuvent être différentes de la part des élèves, mais à partir d'un point de vue scientifique. Et quand on regarde un peu cet enchaînement, là, ce que disent les auteurs, c'est que quelque part, il y a une articulation qui est nécessaire entre l'expression de plusieurs points de vue et l'expression d'un seul point de vue, et entre l'expression du point de vue du quotidien et du point de vue de la science. Et quand on regarde l'enchaînement, on est parti de quelque chose de dialogique, discussion des différents points de vue du quotidien, qui ont été résolus de manière autoritative avec l'introduction. Hein, c'est là que on introduit le point de vue scientifique. Ce point de vue scientifique a été exploré ensuite de manière dialogique. On l'a fait fonctionner en prenant le point de vue des élèves sur le réel, en faisant fonctionner le point de vue scientifique de manière dialogique pour faciliter son appropriation. Donc finalement, l'idée qui sort de cet article, c'est qu'il y a, enfin de plusieurs d'ailleurs, deux pôles en tension et qui ne sont pas dichotomiques, hein, et entre lesquels il n'y a pas, ni de jugement de valeur, ni d'opposition. C'est-à-dire que l'un contient le germe de l'autre. Et on s'appuie sur l'un pour passer à l'autre et vice-versa. Voilà, c'est terminé. Élève considéré ici comme engagé dans une culture spécifique, hein, qui est en conflit avec la culture scientifique. Ça renvoie un peu à des choses qu'on a en partie dites hier. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une nécessité pour les enseignants d'identifier le point de vue des élèves, on a dit hier aussi à propos des hypothèses, et leur structure de ces points de vue, pour proposer des situations où ils sont discutés. Vous voyez que là, l'originalité de la deuxième situation qui est proposée, avec le fait qu'on ait de la glace fondante, et puis le fait qu'on ait un mélange réfrigérant, la glace fondante chauffe, hein, ce qui heurte quand même quelque chose, puisque la glace c'est le froid, c'est pas le chaud. Voilà. Bon, puis les séances discutées peuvent être reliés à certains des principes, hein, de l'engagement disciplinaire, notamment l'autorité à dire le savoir, par exemple, et la responsabilité par rapport à ces savoirs, la problématisation aussi. Voilà. Hein.